Bonjour, ici Grégory Philips, je dirige le service reportage de BFM TV. Une troisième nuit d'émeute en France après la mort du jeune Naël, 17 ans, tué mardi matin à Nanterre par le tir d'un policier. Des scènes de violence à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, mais pas seulement, aussi dans plusieurs villes de France avec des magasins vandalisés, des voitures brûlées et des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Comment nos journalistes racontent-ils cet embrasement? Comment travaillent-ils au milieu de ce chaos? Comment peuvent-ils garantir leur sécurité quand ils ne sont pas les bienvenus dans certains quartiers? Comment, même si c'est difficile, continuer dans ces conditions à faire son travail de reporter? On en parle avec Boris Karlamov, qui a été l'un des premiers à arriver à Nanterre mardi, et avec la journaliste reporter d'images Marjorie Marcillac, qui hier a couvert la marche blanche organisée par la famille et les amis du défunt. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le vendredi 30 juin, il est 11h du matin. Il raconte les émeutes après la mort de Naël. C'est le 52e épisode du service reportage. Bonjour Boris.
Bonjour Grégory.
On te dérange quelques instants après une longue nuit de travail pour toi. Si je t'appelle, c'est parce que dès mardi, en fin d'après-midi, tu es avec Johan Chérifi, qui est ton JRI, ton journaliste reporter d'image, un des premiers à arriver à Nanterre. Pourquoi mardi après-midi, on t'envoie sur place? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé pour vous?
Alors, avec Johan, nous étions donc déjà sur place à Nanterre mardi dans l'après-midi pour réaliser des duplex, et cela quelques heures donc après la mort du jeune Naël. Et vers 18h, donc, on a des premières remontées d'informations qui font écho, eh bien, de premiers incidents, de premiers affrontements dans le quartier du Vieux-Pont à 2 kilomètres de l'endroit où l'on se trouve avec Johan. En fait, le quartier du Vieux-Pont, okay. pour t'expliquer, c'est l'endroit où était domicilié, la jeune victime de 17 ans, Naël. Et donc, on se rend immédiatement sur place, on progresse dans la ville et on voit devant nous un panache de fumée, un important panache de fumée qui ne cesse de grossir au fil de notre chemin. On arrive à pénétrer dans le quartier et là, il y a énormément de monde dans les rues. Ce panache de fumée, en fait, c'est le résultat d'un incendie sur une cabane de chantier. Les sapeurs-pompiers nous font reculer parce qu'il y a des risques d'explosion avec les bonbonnes de gaz qui se trouvent à proximité. On voit de nombreuses barricades en feu, de nombreux abribus qui ont été vandalisés avec des poubelles renversées et surtout une très forte tension sur place puisque les forces de l'ordre sont déjà présentes quand on arrive. Il y a quelques tensions entre les habitants du quartier qui n'apprécient pas visiblement la présence des forces de l'ordre en bas de leurs immeubles.
Quand tu arrives dans ce quartier, que te disent les gens? Est-ce que ce que tu ressens, c'est déjà une énorme colère, de la tristesse? Enfin, quel est l'état d'esprit des gens avec
lesquels
tu parles?
Alors là, on est passé au stade supérieur, on est passé au stade de la colère. C'est-à-dire qu'on arrive sur place, on se fait tout de suite prendre à partie, on nous demande de quitter les lieux, on nous demande de ne pas rester ici. Donc on reste quelques minutes, le temps de faire 2-3 images, et puis on décide de s'écarter un peu. Mais il y a surtout beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. On peut voir des mères de famille qui sont en pleurs devant nous. Beaucoup de gens viennent nous voir en nous demandant de montrer la vérité selon eux, de montrer le comportement des policiers qui selon eux n'est plus acceptable depuis un petit moment dans ce quartier. Et puis à la fin, une bande de jeunes nous fait clairement comprendre qu'il faut qu'on parte d'ici au risque de se voir casser notre matériel. Donc on s'écarte un peu. Et là, c'est vraiment le début des premiers affrontements violents à Nanterre avec ça. Va durer plusieurs heures jusqu'au petit matin, le lendemain, le mercredi matin, donc avec des tirs de mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre, des tirs par dizaines, les forces de l'ordre qui répliquent avec des tirs de gaz lacrymogène ainsi que des tirs de LBD. Mais pendant la soirée, on s'aperçoit que les forces de l'ordre, elles sont à court de munitions, donc elles sont contraintes de quitter ce quartier. Et pendant plusieurs heures, il n'y aura plus aucune force de l'ordre dans ce quartier. Ce sera réellement le début donc, de ces violences urbaines à Nanterre.
effectivement, Maxime, avec des tirs de mortier qui sont toujours en cours, notamment dans le quartier du Vieux-Pont. C'est dans ce quartier-là, eh bien, qu'était domiciliée la jeune victime de 17 ans de violents aux affrontements, donc depuis la fin d'après-midi. Et vous allez le pouvoir le voir sur ces images de Julien Taureau. Il y a un nouveau quartier qui est en proie, eh bien, à des affrontements avec les sapeurs-pompiers qui viennent d'arriver sur place. Vous voyez un important panache de fumée est en train, eh bien, de s'élever dans le ciel. Et voilà, de nouvelles tensions donc dans un nouveau quartier avec un incendie qui est donc en cours à quelques centaines de mètres de nous. Il y a eu des tirs de feux d'artifice, des tirs de mortier. Forcément, beaucoup de tensions. Il y avait des craintes de représailles suite à la mort de ce jeune garçon de 17 ans. Eh bien, ces craintes, elles sont en train de se confirmer. À ce stade, il y a eu 9 interpellations dans des affrontements depuis la fin de journée. Des policiers qui ont saisi des jerrycans d'essence ou encore, eh bien, des mortiers d'artifice et voire même aussi des cocktails Molotov. Des barricades ont été installées dans le quartier du Vieux-Pont. Des barricades qui sont toujours en cours. L'objectif, eh bien, c'est de bloquer l'accès aux forces de l'ordre pour qu'elles ne puissent pas, eh bien, pénétrer dans ce quartier du Vieux-Pont. Mais vous l'entendez peut-être derrière moi, il y a des cris dans un quartier qui est plongé dans un épais nuage de fumée avec des forces de l'ordre qui sont en train de faire route dans ce quartier qui se situe juste à proximité des lieux du drame.
Pour bien décrire la façon dont vous travaillez, tu disais tout à l'heure, on est pris à partie, on nous dit de ranger notre matériel, etc. Comment vous assurez votre sécurité et votre capacité à continuer à travailler ?
Alors bon, on va pas tout dévoiler non plus, mais on est forcément accompagné par des APR, ce qu'on appelle les agents de protection rapprochés, un APR pour un journaliste. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait,
l'équivalent d'un
garde du corps
qui est là pour
d'un garde du corps, c'est
pour,
ça.
Vous extraire éventuellement de situations compliquées. Quoi.
Exactement, okay. Exactement. Quand il y a des attroupements autour de nous et ils sont censés bien nous exfiltrer, on n'a pas notre matériel habituel pour travailler, pour être un peu plus discret. On se tient un peu à l'écart. Quand il y a des moments calmes, eh bien, on se met à tourner. Et puis, dès qu'il y a une moindre invective, une moindre insulte à notre égard, eh bien, on recule, on attend que ça se calme. Mais c'est des conditions très particulières, très différentes de ce qu'on peut voir en manifestation. Là, le danger, il est permanent. Il faut être en permanence sur nos gardes. Dès qu'une voiture s'arrête à côté de nous, ben, on recule parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans cette voiture-là quand elle s'approche de nous. C'est vraiment des conditions totalement différentes de ce qu'on a connaître sur les gilets jaunes ou les manifestations. La vigilance, elle est permanente et il faut absolument pas qu'on ait un moment de fatigue pour être vraiment aux aguets en permanence.
À gauche, une image en direct de Nanterre, c'est ce qui se passe en ce moment. À droite, des images filmées il y a quelques minutes que nous vous diffusons. On retrouve notre reporter sur place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ces colonnes de fumée dans le ciel ?
Et donc toi, Marjorie, tu as couvert la marche blanche qui était organisée à Nanterre hier. Raconte-nous d'abord quand tu arrives, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'il y a plus de monde que ce qu'on attendait ?
Alors quand je suis arrivée, on est arrivé en amont de la manifestation, 2 heures avant le début, et il y avait essentiellement des journalistes devant la préfecture. L'ambiance était un peu bizarre parce que effectivement il n'y avait aucun riverain et on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé en fait. Et très rapidement on a su que on était interdit de citer à Pablo Picasso, donc là où était originaire Naël.
En fait, toute la matinée, on a même reçu des messages nous prévenant en disant attention, on ne laissera pas entrer les journalistes et les caméras.
Exactement. Et donc du coup, quand on arrive sur le terrain, on rejoint des collègues, on les relève en fait, des collègues de radio, des collègues de télévision qui nous disent faites attention, c'est vraiment très dangereux. Il y a un appel à voler tout le matériel et surtout, vous êtes ciblés particulièrement en tant que BFM. Ils vous cherchent et ils veulent vous casser la gueule. Et voilà, vous avez interdiction d'aller dans la cité. Donc du coup, ça met tout de suite dans l'ambiance. Quand on a couvert plusieurs manifestations, on a l'habitude, on sait qu'on n'est pas aimé sur le terrain. Donc j'avais anticipé, on était plusieurs équipes et j'avais pris un iPhone avec d'autres collègues. On avait décidé de prendre un iPhone, un kit iPhone.
Qui est plus discret qu'une caméra.
Qui est quand même plus discret et qui nous permet de moins provoquer, entre guillemets, parce que dès qu'il y a une caméra, tout de suite, les gens pensent que c'est BFM. Et tout de suite, voilà, ils veulent nous empêcher de filmer. Ils nous appellent « Salut les mythos » ou « BF Macron » ou « La télé de la police ». Voilà. C'est très compliqué. En fait, on joue au chat et à la souris en permanence sur le terrain. Donc c'est très compliqué. J'ai couvert des manifestations à l'étranger où on n'a pas ce problème et c'était très agréable de faire juste son travail de journaliste. Là, on fait un travail d'infiltré, en fait. Et c'est compliqué parce qu'on se sent... On n'a pas l'impression de... On n'a pas envie de mentir. Et en même temps, si on ne ment pas sur notre métier, enfin sur notre employeur, on ne peut pas travailler. On est en danger. À partir du moment où on se met en live, les gens regardent l'image, l'axe de la caméra, et viennent tout de suite nous trouver en moins de 2 minutes et nous demandent de partir. Ou alors, ils nous demandent si on est BFM et on est obligé de mentir pour notre propre sécurité. C'est pas parce qu'on a envie de mentir, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de discuter. C'est que si on révèle qu'on est BFM, on est en danger de mort.
On l'a évoqué tout à l'heure avec Boris, à l'instant. En plus, vous avez des agents de sécurité qui sont autour de vous, ce qui est aussi des conditions de travail pas normales. Et ça complique, j'imagine, le contact avec les gens que tu veux interroger, etc.
Alors, l'avantage quand on a un bon agent de sécurité, c'est qu'il sait se faire discret. Mais c'est vrai qu'on est tout de suite repéré, malgré tout, à cause des agents. Donc il faut qu'ils trouvent la juste distance pour pouvoir nous protéger, intervenir rapidement, nous informer quand il ne faut pas du tout qu'on sorte la caméra ni l'iPhone, voilà, parce que quand même on est identifiable, on a un casque de vélo pour se protéger, on a souvent des lunettes, et même avec un iPhone, en fait, les gens savent très bien que BFM aussi, ou les autres chaînes, utilisent des moyens discrets pour filmer. Donc voilà, c'est le jeu du chat et la souris en permanence, et l'agent de sécurité vraiment est un atout. Mais il peut aussi nous dénoncer, entre guillemets, parce que c'est pas commun de voir quelqu'un qui se promène avec
quelqu'un qui fait 2 mètres de haut.
C'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est particulier. C'est depuis des années, c'est comme ça. Moi, depuis que je suis rentrée chez BFM, c'est le quotidien. Chaque fois qu'il y a une manifestation ou des émeutes, il faut toujours ce paramètre. C'est-à-dire, on est il faut être sur le qui-vive parce qu'on est journaliste, mais aussi parce qu'on est BFM.
Et du coup, qu'est-ce que tu as réussi à montrer ou à faire remonter comme image de cette marche blanche ? Est-ce que, malgré ces difficultés, vous avez pu raconter toute l'après-midi et toute la soirée ?
Alors, d'abord, il y avait un gros problème de réseau. Et je pense, j'aimerais avoir la certitude, mais je pense qu'il y a eu un moment des brouilleurs. Donc, impossible d'envoyer des images. Et du fait que j'étais avec un iPhone, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a moins de réseau. Mais malgré tout, les autres équipes, parce qu'on était nombreux sur le terrain, les autres équipes étaient parties couvrir le début de la marche blanche. Et nous, on était restés avec mon collègue Frédéric Fernandez devant la préfecture en attendant que la marche arrive un peu. Et là, à un moment, on voit une voiture qui s'arrête devant la préfecture avec une dame âgée qui sort. Et tout de suite, en fait, je repère que c'est la grand-mère de Naël. Et que tous les autres journalistes sont partis et qu'il ne reste plus que la presse étrangère qui ne la connaît pas forcément. Donc on la suit, on lui demande si on peut filmer. Elle nous dit non, mais qu'elle parlera peut-être plus tard. Donc on garde une distance. Et elle nous dit qu'elle va se recueillir sur les lieux où est mort son petit-fils. Donc on reste à 5-6 mètres en arrière. On l'accompagne. Elle se recueille. C'est très émouvant. Grâce à une autre consoeur qui était sur le terrain, on l'approche une fois qu'elle s'est recueillie. Elle accepte parce qu'on lui demande de passer un message. En fait, quel message elle veut passer. Donc elle accepte de nous parler.
Je ne fais pas la marche. Je reste ici, où il est mort mon fils, jusqu'à ils vont l'enterrer. Demain ou après-demain, je ne sais pas, avec ma fille, c'est son fils. Moi, c'est pire. Moi, je suis sa deuxième mère. Moi, c'est mon fils, c'est ma vie. Il était gentil. Le jour qu'il est mort, il m'a dit, maman, j'arrive, mamie, j'arrive. Avec, j'aime bien les oranges, j'aime bien du raisin, j'arrive avec les pastèques, le raisin, les oranges. Le pauvre, il allait venir chez moi. Et pour me montrer, Zama, il est bien et tout, il est venu. Après, j'ai vu mon fils, ma fille, elle m'appelle. Elle m'a dit, maman, Naël, il est mort. J'ai pas cru. J'ai dit, ah non, tu racontes n'importe quoi. Et quand j'ai appelé le maire parce que c'est mon ami et tout ça, j'ai demandé à tout le monde. Ils ont dit, j'ai vu la télé, j'ai vu BFM. Mon fils, il ne s'est pas sauvé parce que celui qui était à côté de lui, il m'a dit non. Naël, il était en train de parler, il lui a dit je te tue maintenant. Ils ont dit qu'est-ce qu'est le mot là ? Choupe-le. Donc, on va lui dit choupe-le, tue-le. Après, la balle, elle est partie, elle est venue ici. Et le copain de mon petit-fils, il a dit oh, ils m'ont touché. C'est là la voiture qu'elle est partie. Il ne s'est pas sauvé. Regardez, il est venu par là. Ils peuvent l'arrêter, ils étaient trois voitures, ils peuvent l'arrêter. C'est pas normal. Ils l'ont poussé avec la balle qu'il a eue.
Et là, on est seul. On ne se sent pas du tout en danger. L'agent de sécurité nous dit, c'est bon, vous pouvez filmer. Voilà. Donc là, l'avantage d'être plusieurs équipes, c'est qu'on a pu se répartir. Et ça, on ne l'aurait pas eu si on n'était pas plusieurs équipes. Et c'était un moment privilégié, assez émouvant, d'appel... Enfin, avec la douleur de cette grand-mère, mais... Qui appelait, pas vraiment au calme, mais qui nous parlait de sa douleur et nous confiait cette douleur. Voilà. Donc ça c'était un moment particulier de la manifestation. Voilà. Et ensuite, la manifestation est arrivée vers nous, on l'a suivie, c'était assez calme. Il y avait beaucoup de scooters voilà, qui faisaient un peu le cortège de sécurité de la manifestation parce qu'elle n'était pas déclarée. Et on arrive sur la place Nelson Mandela, là où le Naël a été tué, enfin, où la voiture a fini sa course. Et là, la place était inondée de monde. Le camion avec la mère de Naël arrive. C'était assez calme. C'était plutôt voilà, émouvant, mais calme. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a dû avoir un affrontement, je ne sais pas. La place, tout d'un coup, a été inondée de lacrymo. Des grenades sont parties. Ça a inondé la place. Du coup, les gens, les familles, les femmes, les enfants se sont mis à courir sur la place. Il y a eu des mouvements de panique, en fait. On s'est réfugiés en haut d'une terrasse qui donnait sur la place. Et là, j'ai pu filmer des images en hauteur. Et j'étais extrêmement frustrée parce qu'il n'y avait pas de réseau. Donc, je ne pouvais pas ni faire du live, ce qui, de toute façon, aurait été dangereux. Mais j'étais plutôt avec des femmes et des enfants. Donc, voilà, je ne me sentais pas en danger. Donc, je ne pouvais ni faire du live, ni envoyer les images que je faisais. Donc, c'était assez frustrant. Voilà. Et après, ça a dégénéré. Les forces de police nous ont repoussés, ont tiré des lacrymos sur la terrasse. Donc, on a couru. Il y a eu des émeutes dans une rue parallèle. On voyait de la fumée partout, des flammes qui sortaient des bâtiments. C'était vraiment apocalyptique, en fait. Et on avait en ligne de mire la défense. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible. En fait, on est en train d'arriver à la défense. On est repoussés.
Le quartier d'affaires.
Voilà. Les CRS commençaient à se refermer sur nous. Enfin, il le faisait comme une nasse, en fait. Et voilà. Et donc, ça s'est petit à petit... Il y a eu des tensions, puis ça s'est soufflé, puis ça repartait, ça s'est soufflé. Et à un moment donné, je me sentais en sécurité. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde autour de moi. Donc, je me suis mis en live et j'ai filmé des CRS. Qui protégeaient un resto qui brûlait. Enfin, voilà. Et là, en fait, quelqu'un s'est approché de moi avec l'image en live sur son propre téléphone et m'a demandé si j'étais BFM. Et je me suis fait, entre guillemets, prendre la main dans le sac et j'ai le réflexe de mentir parce que finalement, je n'étais pas tant en sécurité que ça. Et je savais que si on dénonçait notre position, tout le monde allait arriver parce qu'il y avait un appel sur les réseaux sociaux. Donc j'ai menti, ce que normalement, déontologiquement, on ne fait pas. Et j'ai dit non, je suis une agence. BFM doit reprendre mes images. Et je suis partie. Voilà. Donc, c'est un peu honteux. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de faire mon métier. Mais en même temps, je sais très bien que même si je discute, c'était le même problème quand on couvrait les Gilets jaunes, il n'y a pas de discussion possible, en fait.
Pas dans ces moments-là, en tout cas.
Pas dans ces moments-là. Donc, il faut juste faire un petit mensonge et partir. c'est triste, en fait. C'est douloureux de faire ça. Parce qu'on n'a pas envie de mentir, en fait.
Voilà, c'était le 52e épisode du service reportage avec Boris Karlamov et Marjorie Marcillac. Un épisode à retrouver quand vous le souhaitez sur bfmtv.fr et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.